chaque fois, à chaque fois, à chaque fois.
Présence.
Présence.
Radio Présence, 15h. De passage à Lourdes.
Nous recevons dans cette émission Tuc de Alderville. Bonjour.
Bonjour Mathias.
Ah, que vous aimez Lourdes, parce que Lourdes, c'est fondateur pour vous. Vous allez nous le dire dans quelques instants. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita et co-initiateur du courant pour une écologie humaine. On vous doit un ouvrage récent, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine. Et c'est paru aux éditions Plon. Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. Mais auparavant, j'aimerais vous entendre sur Lourdes. Quand je dis que ça a changé votre vie, est-ce que j'exagère? Est-ce que j'essaie de faire un teaser, comme on dit parfois dans la communication, c'est-à-dire attirer un peu les auditeurs? Ça a vraiment changé votre vie, Lourdes?
Oui, le mot n'est pas trop fort, il est même peut-être trop faible, parce que ma vie a comme basculé. Quand j'avais 20 ans, je suis venu à Lourdes sur le conseil à la fois de mon frère qui avait déjà été, de tante qui trouvait que passer tout l'été à Toulon, c'était quand même un petit peu vain. Et j'ai été émerveillé en devenant hospitalier par l'humanité, notamment d'un petit garçon qui s'appelait Cédric et qui avait une infirmité motrice d'origine cérébrale. Il ne parlait qu'avec les yeux, un battement vertical pour dire oui, un battement horizontal pour dire non. Mais j'ai découvert au fond le présent d'éternité. J'ai découvert que en étant avec lui, jamais je ne ferai d'aussi grand voyage qu'à la rencontre des personnes. En l'occurrence fragile, mais je crois que c'est vrai pour toute personne, le fait qu'il ait ce handicap qui l'empêchait de faire quoi que ce soit a comme révélé la profondeur de son humanité. Je lui posais des questions et alors il avait parfois de l'humour, de la délicatesse, de la finesse, et je découvrais progressivement toute la profondeur de sa pensée et surtout de son humanité. Et j'ai eu à un moment donné une sorte de vertige en me disant, mais voilà, ça y est, j'ai trouvé ce bonheur, mais je vais devoir repartir au bout de 5 jours. Et c'est un monsieur non-voyant qui a changé qui m'a fait révéler au fond quelque chose. Il était à m'entendre au dernier jour, à l'époque, il y avait une salle de transit avec les cars qui arrivaient en reculant, et on attendait que nos valises, le départ, et moi j'avais le cafard adolescent de celui qui sait que tout va s'arrêter, et le monsieur non-voyant a crié en m'entendant parler avec Cédric, « Ah, la jeunesse de Lourdes, qu'elle est belle! Si la jeunesse de France était comme ça, la vie serait belle. » Et cette phrase est descendue vraiment dans mon estomac, si vous me permettez l'expression, et je me suis dit, « Qui suis-je ?» Jeunesse de France, j'aurais fait quoi vis-à-vis d'un petit garçon en fauteuil roulant, tout prostré, courbé en avant? Le regarder, c'est indélicat. Détourner le regard, c'est aussi indélicat. À Lourdes, j'avais vraiment rencontré cet ami et quelques autres aussi. Et du coup, je me suis dit, de manière très volontariste, je veux être jeunesse de Lourdes en France. Du coup, j'ai pris contact avec la famille de Cédric, que j'ai rencontré ensuite à Toulon, où il habitait. Je me suis inscrit, quand je suis retourné à Paris, dans le club des loisirs de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et à chaque fois, avec ses enfants, ses amis nouveaux, le même émerveillement, la même joie.
Vous allez nous raconter dans quelques minutes là, comment vous avez créé à bras ouverts hein, cette association justement qui porte un regard et en plus un accompagnement des personnes en fragilité. Ça explique ce que vous venez de dire là, que vous soyez aujourd'hui délégué général d'Alliance Vita, qui justement aide les personnes qui sont confrontées aux épreuves de la vie et puis qui sensibilise aussi, on vous entend beaucoup sur ce terrain-là, qui sensibilise les publics sur la protection de la vie humaine. Au fond, votre carrière un peu professionnel, votre parcours s'explique par ce qui s'est passé là, ce que vous nous avez raconté à l'instant.
Oui, ça s'explique, et même lors des 25 ans, il y a déjà maintenant 5 ans d'un bras ouvert, depuis il y a eu les 30 ans, j'ai mieux compris, c'est un peu culotté peut-être ce que je vais dire, mais j'ai mieux compris que le oui de la Sainte Vierge faisait résonner tous nos oui. C'était un oui cosmique finalement, c'était un oui qui a accueilli cette incarnation, et puis nous, tous nos oui, petits ou grands, on construit cette société que j'appelle moi d'écologie humaine, on peut l'appeler aussi altruiste, de bienveillance, chrétienne aussi, oui, il faut oser peut-être le dire, tous ces oui successifs. Et j'ai découvert progressivement à quel point Lourdes avait influencé ma vie par ce, par cette présence si essentielle. Il y a ici, dans le sanctuaire, les pauvres, les petits, les fragiles, ceux qu'on appelle parfois improprement, au moins quand j'étais, les malades, parce qu'ils sont des personnes handicapées ou dépendantes, parfois malades, sont vraiment le cœur même de ce sanctuaire. Il est autour d'eux, autour de ces personnes. Et donc, j'ai découvert finalement que ce pèlerinage à Lourdes avait organisé toute ma vie. Après la rencontre avec des personnes concernées par le handicap, la dépendance, après mes études, je suis rentré chez les petits frères des pauvres, et j'ai découvert aussi que l'émerveillement vis-à-vis des plus fragiles, il était universel. Mais je crois que c'est l'émerveillement de Jésus lui-même, hein, quand il dit, vous savez, cette fameuse trinité qui est présente, « Père, je te bénis », Jésus tressaille sous l'action de l'Esprit-Saint, « Je te bénis ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout-petits. » Les tout-petits, c'est vous et moi aussi, hein, c'est-à-dire c'est nous quand nous sommes peut-être pas dressés sur nos ergots. Et il y a quelque chose, je pense, d'universel qui vient de Lourdes et qui est un message de paix, d'apaisement, de douceur dans un monde assez dur. Et finalement, ça a été comme mon école anthropologique. Pas seulement ce que j'ai vécu à Lourdes, d'ailleurs spirituellement au début, je prenais un peu des distances, j'avais un mépris pharisien pour les bondieuseries, vous voyez, je me sentais un peu au-dessus de tout ça. Il a fallu quelques années pour que j'entre dans le mystère de Lourdes, que j'aille me plonger moi-même dans cette eau où j'avais plongé mes amis. Parce que j'ai découvert quoi là, il fallait aussi un esprit brisé pour être dépositaire de tout ce mystère de ce qui se joue ici.
Vous avez prononcé cette expression, l'émerveillement pour les plus fragiles. Ça sonne comme une évidence dans votre bouche. Pourtant, ça n'en est pas une dans notre société. Oui. L'émerveillement pour les plus fragiles. C'est même pour certains incompréhensible.
Oui, et ce n'est même pas tellement évident pour moi. Parce qu'au fond, j'ai fait deux expériences. La première, je vous l'ai dit, c'est celle de l'émerveillement. Mais une autre qui m'a vraiment enraciné davantage et qui est arrivée peut-être un peu plus tard, au-delà d'une sorte d'angélisme ou de peut-être une forme de naïveté, parce que j'y rencontrais avec ces enfants porteurs de handicap d'abord beaucoup de joie, mais j'ai aussi découvert leur souffrance, l'injustice de leur mise à l'écart et aussi, le plus douloureux, ma capacité de les rejeter. Cette capacité de les rejeter, je l'ai éprouvée notamment avec un ami qui était sourd complètement, en fauteuil, abandonné par sa famille. Il est devenu aveugle, à bras ouverts, du fait de ses glaucomes. Et lorsque je me suis retrouvé, c'était Stéphane, il est devenu adolescent, il a eu des moments de grande violence et très compliqués. Et à certains moments, j'ai senti en moi un rejet viscéral de sa vie même. C'est ce rejet viscéral de sa vie même qui m'a effrayé, que j'ai ressenti en moi, qui a fait descendre le respect de la vie de ma tête à mes entrailles. C'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre que certes, il y avait un émerveillement sensible face à la beauté de la personne fragile, mais que c'était aussi le pari d'une dignité. C'était plus grand, il était plus grand que mes sentiments, mes sensations. Vous savez, Pascal, le grand Pascal dit « l'homme passe infiniment l'homme ». Donc à un moment donné, c'est un mystère de la personne, pas seulement de la joie, c'est aussi de la douleur, un mystère, le mystère de la souffrance. Vous savez, quand Job crie, alors Job maudit le jour de sa naissance. C'est-à-dire, à un moment donné, un cri de désespoir, c'est aussi ça qui est celui de l'homme souffrant, ou que nous poussons lorsque certains de nos amis, de nos proches, n'en finissent pas de ne pas mourir, ou n'ont plus figure humaine à nos yeux. Là, il y a un pari de la dignité, et donc je comprends une société qui est dans le rejet des pauvres, des différents. Moi-même, oui. Je risque de le vivre parfois. Je lutte contre cela, bien sûr, hein, mais je le comprends, et il faut accueillir ces cris et les consoler.
Oui, donc vous vous dites, cette société, elle est telle qu'elle est, elle a peur de la fragilité, elle a peur de nos failles, de nos faiblesses, qu'elle masque pour n'afficher que la force, oui, en tout cas c'est ce qui est mis en avant très souvent. Pourtant, vous vous battez contre, entre guillemets, cette société-là. Vous êtes vif, audacieux, sur bien des théâtres d'opérations télévisuels ou médiatiques. Donc vous la comprenez, vous me dites ça comme ça.
Bah j'essaie, je me dis toujours.
Vous bagarrez contre elle quand même.
Oui, mais les dysfonctionnements que je vois très bien, puisque j'accommode sur les pailles des autres plus que sur les poutres qui sont dans mes yeux, mais ces dysfonctionnements, ils parlent aussi de moi. Je suis mon propre laboratoire intérieur, je vois aussi toutes ces peurs, ces difficultés. Et j'essaie de voir chez les autres aussi leur propre capacité d'aimer, parce qu'au fond du cœur de l'homme, je sais qu'il y a ce sanctuaire de la conscience où jaillit l'attrait du bien, du beau et du vrai, qui est souvent étouffé par toutes sortes de conditionnements. Et je pense qu'on peut aussi se réjouir d'une société, j'essaie de le faire, y compris en tant que père de famille, hein, qui avance dans le sens du bien aussi. Il y a comme un mouvement, un chassé-croisé, comme la marée montante et descendante se croise à un certain moment lorsqu'il y a une inversion. Et je crois que c'est important de voir que notre société a aussi progressé. Le respect de l'enfant est plus grand aujourd'hui. Saint-Vincent de Paul s'occupait de dizaines de milliers d'enfants abandonnés dans les grandes villes d'Europe. Aujourd'hui, un enfant dans une poubelle qu'on trouve en train de crier parce qu'il a été abandonné là par une maman isolée et seule, ça fait scandale. Ça ne faisait pas scandale il y a quelques centaines d'années. Il y a d'autres scandales nouveaux qui sont arrivés. Mais je crois que c'est important de voir que nous humanisons aussi notre regard sur les plus fragiles. Et en même temps, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais que, dans le sens de l'histoire, j'espère qu'on humaniserait notre regard sur l'embryon, sur les plus fragiles que nous rejetons.
Avant de marquer la pause dans cette émission, parlez-nous un peu de cette aventure d'À bras ouverts. Ça fera l'objet d'un prochain livre qui paraîtra dans les semaines à venir aux éditions de l'Emmanuel, l'aventure d'À bras ouverts. Mais c'est dans la prolongation de ce que vous venez de nous dire. Cette association, elle accueille les plus fragiles, elle s'émet un peu partout en France.
Oui, il y a 25 groupes maintenant, dont la moitié à peu près en région parisienne et les autres dans pas mal de villes, y compris à Toulouse, pas très loin, très loin d'ici. Mais ce sont des jeunes accompagnateurs, étudiants, jeunes professionnels qui accueillent des enfants ou des jeunes porteurs de handicap et parfois de polyhandicap. Vous savez, c'est handicap multiple, souvent associé. On parle parfois de surhandicap lorsque, par exemple, une surdité qui n'a pas été très bien diagnostiquée provoque parfois un autisme ou un enfermement sur soi ou des psychoses, des choses comme ça. Voilà. Et à bras ouverts, c'est tout simple. Ces groupes partent en vacances ou en week-end ensemble et ils vivent une vie toute simple. On pourrait la qualifier de communautaire pendant un petit moment sans s'être choisi. Et il y a un émerveillement, je crois, réciproque, une fidélité de l'association à ceux qu'elle accueille. Il y a actuellement à peu près 500 jeunes porteurs de handicap qui sont accueillis dans les 25 groupes au total. Voilà. Je pense que ce qui marque le plus à bras ouverts, c'est la joie, c'est vrai. C'est ce qui est toujours dit. Parce que autant les parents et les familles peuvent éprouver, on le sait bien, des souffrances très grandes, mais aussi de la joie avec leurs propres enfants, autant des amis sont là pour se faire du bien, se réjouir de faire des choses toutes simples. Ce que je pense aussi avoir apporté à bras ouverts dès ses débuts, c'est cette grande simplicité des activités. Être ensemble suffit. On n'a pas besoin de faire des baptêmes de l'air, ça peut arriver que des personnes avec un handicap fassent des belles activités, des tours du monde, etc. Mais nous, on fait essentiellement, on vit avec eux des moments absolument simples. Moi, l'âge que j'ai, je n'accueille plus de la même façon. Il y a aussi à bras ouverts de l'accueil en famille, enfin des activités ou une fidélité personnelle. Moi, je l'exprime avec un filleul que j'ai qui est grand maintenant et qui vient parfois à la maison et on a donc des liens de fidélité. Mais ce qui est la marque, c'est cette simplicité de relation et on peut dire même que nos amis nous adoucissent, nous humanisent. Voilà, au début de ma voix, vous voyez que je suis parfois un peu speed, je suis désolé pour les auditeurs, mais quand mon filleul vient, qui ne parle pas, qui dit oui avec une main qu'il plie d'une certaine façon, non d'une autre manière, qui dit 3-4 mots juste à boire et 2 ou 3 autres choses, il dit aussi amen, eh bien, toute la famille se met au rythme de sa contemplation. Et toute la famille se met à regarder des choses que nous n'avons pas le temps de voir dans la frénésie consumériste de notre bien-portance, voyez. Et donc, je pense que nos amis ont des leçons à nous donner. Moi, je suis ami de Philippe Pozzo di Borgo, vous le connaissez sans doute, à l'origine du film Intouchable. Et quand je vais le voir, immédiatement la consolation arrive, alors qu'il est souffrant. Il a souvent des souffrances physiques assez fortes. Mais sa force de présence... et j'ai envie de dire évangélisatrice, alors que c'est pas du tout ni son intention ni peut-être même ses convictions profondes. Il nous dit approchez-vous de moi, moi l'intouchable, touchez-moi, réconciliez-vous avec votre part de fragilité. Hein, je fais écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Et plutôt que d'éliminer aux deux bouts de la vie les plus fragiles, réconciliez-vous avec vous en tant que fragile, parce que je crois que la fragilité, c'est ce qui nous relie.
Retenez bien le nom de cette association, À bras ouverts, et puis allez vous renseigner sur les moyens modernes, les réseaux sociaux, vous trouverez forcément de l'info. Nous la marquons cette pause, Tuc de Alderville, juste après, comme promis, c'est le dernier livre dont vous êtes l'auteur, dont nous parlons, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine. À tout de suite.
Présence. La Passion selon saint Jean de Bach. Musique priante, précieuse, unique. En partant d'un enregistrement réalisé en février dernier à la Halle aux Grains de Toulouse par l'Orchestre des Passions de Montauban, le chef d'orchestre Jean-Marc Andrieux et le père Poirier vous proposent un commentaire musical et spirituel de l'œuvre. Retrouvez-les chaque jour de la semaine sainte de 18h15 à 19h. Passage à Lourdes.
De passage à Lourdes.
Merci Tugh de Derville de prendre le temps de passer par ce studio. Vous êtes de passage à Lourdes, dont vous nous dites que ce lieu est au minimum, il ne laisse pas indifférent et très important pour votre propre vie. Vous nous l'avez raconté. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita et co-initiateur du courant pour une écologie humaine. Ce livre que vous venez de faire paraître, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, paru chez Plon, c'est un peu ça, c'est que vous vous ressaisissez de cette question de l'écologie et puis vous la faites traverser toute notre réalité humaine, beaucoup plus largement que ceux qui défendent les petites fleurs ou ceux qui disent que ça ne sert à rien de défendre les petites fleurs.
Je pense qu'on est content de trouver des petites fleurs et la biodiversité. Mais puisque vous parlez de fleurs, moi je pense que effectivement les plus belles fleurs de la création, c'est nous. Et la plus belle biodiversité, c'est celle de nos visages.
Oui.
Donc vous êtes d'accord ?
Oui, j'étais en train de me dire, c'est nous et parfois que de cruauté entre les hommes.
Ah oui, bien sûr, ça l'empêche. Voilà. Mais il y a un choix d'ailleurs, c'est vrai. Moi, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je pense qu'on est au pied du mur d'un choix anthropologique. Soit l'homme est un loup pour l'homme. Et on voit ce qui se passe, on voit les attentats, et à ce moment-là, partons, fuyons, aplatissons-nous par terre pour pas s'entretuer ou pour pas prendre une balle perdue. Soit nous sommes faits pour nous donner. Et nous sommes faits pour nous donner, c'est à la fois pour moi un constat et une parole prophétique. Un constat parce que nos vies sont reçues. Donc dans mon livre, je vais pas vous le détailler, rassurez-vous, mais je pars dans une première partie des trois murs porteurs de notre anthropologie. Qui est l'homme ? Et en cherchant dans le réel, hein, sans fantasmer, parce que comme le dit le pape François, la réalité est supérieure à l'idée. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme séjourne longtemps dans le corps d'une femme. Et cette maternité, ce sanctuaire, cette enceinte maternelle dessine pour moi l'origine de l'anthropologie du don, du fait qu'on se reçoit gratuitement et après du coup on a envie, on a besoin de se donner gratuitement. L'écosystème familial, deuxième mur porteur, qui nous fait entrer dans la culture du soin, du prendre soin, le petit homme est tout fragile et des lignées de sages-femmes, on les connaît d'ailleurs depuis l'Antiquité pratiquement, ont fait que nous avons eu la vie sauve. Donc je peux détailler à quel point cet écosystème avec l'autorité paritaire, père-mère qui est très ajustée, qui est extraordinairement ajustée pour essayer de conduire cet écosystème vers la liberté de ceux qui en bénéficient, bien, voilà, doit être protégé, soutenu. Et puis le sexus, l'altérité sexuelle justement, homme-femme, le fait que l'humanité est faite d'êtres qui ne sont pas complets par eux-mêmes, qui ont besoin d'autrui pour procréer, pour être prolongés. Ces trois murs porteurs sont attaqués par un courant de pensée de personnes souvent très souffrantes, du fait de leur propre histoire personnelle avec leur famille, mais qui n'ont de cesse de casser à la fois cette maternité corporelle, parce qu'ils imaginent une gestation par autrui, voire un utérus artificiel. Je vais vite en besogne, ça paraît peut-être effrayant, mais effectivement, j'ai beaucoup lu et travaillé sur ceux qui pensent qu'il faut affranchir l'humanité de la maternité. J'ai dialogué sur France Culture avec Marcela Yacoub, qui, quand j'ai dit le mot grossesse, m'a dit « arrêtez tout de suite, ça sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour les femmes ». Bon, ceux aussi qui pensent que la famille est le lieu de l'aliénation, elle peut l'être. Maltraitants, etc. Mais on n'a rien trouvé de mieux. C'est ceux qui disent que le sexus doit être effacé devant une neutralisation du genre parce que c'est faire intrusion dans nos vies que de nous assigner un sexe, considère-t-il. Donc, ces trois murs porteurs sont comme l'antidote, à mes yeux, à un grand fantasme qui pointe aujourd'hui, qui est celui de l'homme augmenté, du transhumanisme. On imagine un homme hors sol, déraciné, tout puissant, immortel, omniscient, etc. Et donc j'essaie de montrer dans mon livre qu'il y a là un bras de fer, j'utilise un peu des gros mots, un bras de fer anthropologique, et que pour gagner ce bras de fer, au service de l'homme, de la véritable humanité, il faut s'enraciner auprès des plus pauvres et des plus petits. Ceux-là même qui ne mentent pas par leur existence humaine. Donc je dis, qu'est-ce que c'est que l'humanité ? J'en aurais terminé dans mon discours comme ça de présentation de mon livre. Qu'est-ce que c'est que faire preuve d'humanité ? Quand on y réfléchit, quelqu'un qui fait preuve d'humanité, ben c'est quelqu'un qui se penche vers un plus fragile pour le protéger plutôt que de l'écraser, peut-être pour lui pardonner. Et donc la fragilité est sans doute la clé, à mes yeux, de protection de l'humanité contre une forme d'autodestruction que promettent des apprentis sorciers du transhumanisme.
Ce mot écologie, vous l'entendez comment alors ?
Alors, l'écologie humaine, d'abord, un petit peu à la façon dont les papes successifs en ont parlé.
Y compris le pape François avec Laudato
si. Oui, le pape François aussi. Laudato si, magnifiquement. Ben, au fond, il dit, en reprenant son prédécesseur, le pape Benoît, qu'il y a une nature humaine, justement. Et quand j'ai parlé de ces murs porteurs, j'étais sur cette nature humaine. Qu'est-ce que l'homme ? Le pape Benoît XVI dit dans La charité dans la vérité, au chapitre 6, il pose une affirmation qui résonne énormément dans mon cœur, c'est « la question sociale est radicalement devenue anthropologique ». Autrement dit, qui est l'homme ? Et le pape François, dans Laudato Si, dit « Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. » À nouveau, qui est l'homme? Si on ne sait pas qui est l'homme, on ne peut pas défendre la nature, y compris la nature, non seulement de oui. l'homme, mais l'environnement. Et donc, j'embrasse, disons, dans un même mouvement, cette écologie de l'homme, cette écologie humaine, et puis cette écologie de l'environnement dans lequel non seulement l'homme vit, mais dont il fait partie. Car nous émergeons de cette biodiversité, dont j'ai osé dire que nous étions la plus belle exception, parce que nous avons conscience de cette responsabilité. Aucun animal n'a conscience de sa responsabilité sur son environnement, mais nous en avons conscience. Et donc il y a quelque chose de cette manière magnifique de savoir que, puisque nous, humanité, avons acquis un pouvoir immense sur notre environnement et sur notre propre identité. Je dénonçais encore hier le fait que les Chinois ont conçu pour la première fois des embryons viables génétiquement modifiés, avec une technique de génie génétique, CRISPR-Cas9, qui est très intéressante pour nous sauver de certaines maladies, mais qui peut aussi manipuler le vivant, y compris créer une sorte d'homme transgénique. Eh bien, à partir du moment où non seulement on peut s'interroger sur la planète qu'on va léguer aux générations futures, mais on peut aussi s'interroger sur les générations futures qu'on va léguer à la planète, il est notre responsabilité d'être humble, d'être sage. Plus on est puissant, plus on doit être sage et humble. Et de ce fait, moi j'en appelle à une sagesse qui est absolument essentielle, qui est vitale pour l'humanité, de même qu'on l'a vu, certaines de nos magnifiques découvertes industrielles peuvent générer des catastrophes humanitaires, environnementales, on l'a vu, hein, je ne vais pas vous citer les noms de ces catastrophes, on les connaît. Eh bien, il peut y avoir des catastrophes, d'autant plus qu'une partie de nos très grands scientifiques ne se cache pas de vouloir changer la nature de l'homme.
Mais Tugdual-Derville, comment peut-on mettre des limites à cette fuite en avant? Est-ce que c'est parce que vous faites là? Comment est-ce possible? Parce qu'on a l'impression que cette fuite en avant, on ne pourra pas la retenir. Qu'il y a une telle soif de pouvoir, de reprendre la main, en effet, sur ce que nous sommes et sur l'environnement, qu'au fond, on en reste presque sans armes face à cela.
Moi, je pense que quand je me couche le soir, je risque de me coucher parfois avec le ouf du païen, mais quand je me couche avec la paix du cœur, c'est que j'ai fait mon boulot. Je l'ai dit, vous l'avez relayé, on a fait notre boulot et on a confiance. J'ai confiance, alors j'inviterai pour ceux qui seraient désespérés à lire les derniers paragraphes de Laudato Si, où le pape François, qui pourtant nous a passé d'une certaine manière une avoinée, comme il sait faire, il dit « ne nous inquiétons pas, l'Esprit Saint est créatif ». J'ai envie de dire, il souffle tout aussi fort, il nous fait confiance, il fait confiance à notre intelligence. Et la onde prométhéenne qui génère cette volonté de sortir de l'humanité pratiquement pour acquérir un statut de Dieu, eh bien elle va être régulée par notre sagesse. Comme nous avons su, au fil des siècles, lutter contre l'esclavage, alors que ça semblait impossible, il y a encore peu d'années finalement, hein, on a su progressivement humaniser notre regard sur les enfants, on a su peut-être progressivement découvrir la valeur des personnes concernées par le handicap, même si notre société est ambivalente puisqu'elle est très eugéniste, eh bien je pense que nous saurons acquérir la sagesse correspondant à notre puissance. C'est une question de temps, c'est une question peut-être de décalage, assez souvent la main manipule, et ensuite bien la conscience se réveille. Donc moi j'en appelle à ce réveil des consciences, je fais mon boulot, j'aime aussi ma vie, la pêche à la ligne et beaucoup d'autres choses, je ne désespère pas, et j'essaie aussi de montrer, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure à mes enfants, à ceux qui nous suivent, bien moi je suis même grand-père, donc j'aurai l'occasion de le dire quand il sera un peu plus grand à mon petit-fils, mais de dire que la société peut encore continuer de progresser, de s'humaniser. Moi je fais confiance aux générations futures. En France en particulier, bon, j'ai été un peu en fer de lance, comme d'autres, d'un réveil anthropologique dont j'ai bénéficié, et j'ai vu des milliers et des milliers de jeunes qui sont tombés amoureux du bien commun, qui ne se laissent plus manipuler par des idéologies factices, qui s'engagent auprès des plus fragiles. Je suis frappé de voir que, par exemple, la Fondation Espérance Banlieue a trouvé des solutions là où on pensait ne pas être dans l'échec, où ça semblait être foutu et impossible, vous voyez, pas de fatalité. Pas de fatalité, ce que Jean-Paul II appelait la culture de vie, est toujours plus forte que la mort. Dans mon livre, j'utilise des formules de Vaclav Benda, qui est un dissident tchécoslovaque, et qui disait « face au pouvoir totalitaire », on pourrait dire entre nous, face à la pensée unique, il faut créer des oasis de vie dans la vérité. Voilà. Qu'elles se relient, qu'elles se parlent. Et dans une société qui est comme liquéfiée, où il n'y a plus de repères, les quelques oasis de vie dans la vérité, pensons au monachisme des temps anciens, eh bien il a suffi peut-être de quelques monastères pour irradier ensuite autour d'eux des modes de culture, une paix, par rapport à la violence des hommes, la transmission de la culture, de l'intelligence, etc., grâce à quelques oasis et des hommes qui, on cherchait Dieu, disait le pape Benoît aux Bernardins, j'étais dans son, quand il a fait son beau discours, ils cherchaient Dieu, ils ont transformé et humanisé la société, ils ont créé notre culture. Eh bien, il y a de nouvelles oasis de vie dans la vérité. Radio Présence, j'en suis certain, en est une, et qui rayonne. Et donc, on se relie, on échange nos prophétismes et on a confiance dans l'avenir.
Merci pour cette rencontre, Tuc de Alderville. Je rappelle le titre de cet ouvrage, « Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine », paru chez Plomb. On vous souhaite bon vent et puis à bientôt, j'espère.
Merci, à bientôt, Mathias. Merci de votre accueil.
Présence, présence. De passage à Lourdes.
Pourquoi tu allumes une bougie, papy ?
Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi, la lumière ne s'éteindra jamais, comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller.
Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église. Je lègue à l'Église.
Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10.
Le Festival de musique de Lourdes fête son 50e anniversaire. Pour ses 50 ans, le festival accueille le prestigieux orchestre d'harmonie de la Garde républicaine de Paris le mardi 11 avril et le mercredi 12 à 20h30 à l'espace Robert-Hossein. Deux concerts inoubliables, comme nous le confirme le président du festival, Gérard Altuzara.
On a fait venir ce qui se fait de mieux comme ensemble musical, 65 premiers prix de conservatoire qui jouent ensemble, la Garde républicaine. La Garde républicaine qui va jouer, alors il y aura Rachmaninov, Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov, pour ce qui est de la musique de l'Est, et pour l'Ouest, Fauré, Wagner, avec l'introduction des maîtres chanteurs de Wagner. Mais on aura aussi, par ce même ensemble, de la musique moderne, ils interpréteront de Leonard Bernstein, du Vladimir Kosma, Patrice Dolon, et un fameux concerto de Nakar, qui est l'œuvre de Piazzolla, au cours duquel on va entendre un des quintettes de saxophone, qui est certainement ce qui se fait de mieux actuellement. Ça sera un très grand moment aussi.
Je disais que c'est à l'espace Robert-Hossein de Lourdes.
Oui, c'est vraiment un très beau lieu et la Garde républicaine y sera très bien.
Pour tout renseignement, consultez le site internet du festival www.festivaldelourdes.fr. Vous pouvez également acheter des billets pour les différents concerts à l'office de tourisme de Lourdes, de Tarbes et de Pau. Et les soirs de concert, il y a une vente de billets, dans la limite des places disponibles, aux entrées, une heure avant le début du concert. Le tarif normal est de 25€, le tarif réduit de 14€. Quant au pass festival pour tous les concerts, il est de 90€.
Les grottes, c'était mon ciel.